RFI, grand reportage.
Nathalie Amar.
C'est la plus grande prison de haute sécurité des Philippines. Les plus grands criminels du pays y sont enfermés. 20 000 condamnés à des longues peines dans une prison sans garde, ou presque. Ils sont à peine une centaine de gardiens postés pour la plupart aux portes et sur les murs d'enceinte. À la prison de New Bilibid, à côté de Manille, le manque de moyens a en effet poussé le ministère de la Justice à déléguer la sécurité aux prisonniers eux-mêmes, qui élisent des maires à leur tête. Étonnamment, le taux de criminalité est particulièrement bas, car en plus de cette autogestion, les détenus ont obtenu des privilèges, celui de recevoir notamment la visite de leurs épouses une fois par semaine et pour toute la nuit. Grand reportage à New Bilibid, Sébastien Farcy. On écoute et on retrouve Sébastien tout de suite après.
C'est un match disputé qui se déroule sur ce terrain de tennis recouvert de coquillages battus. Deux joueurs en short finissent leurs échanges amicaux dans la chaleur tropicale des Philippines. Tout ici ferait penser à un court de tennis normal si ce n'était les trois mots en lettres capitales rouges écrits sur le mur du court « Maximum Security Prison ». Warren Zimparan, responsable de l'association de prisonniers Lamb of God, ironise en regardant les joueurs.
C'est l'un des clubs de tennis les plus exclusifs du monde, car vous devez d'abord être condamné par un juge pour y avoir accès. Et ce n'est donc que par une décision de la cour que vous pouvez demander à être membre.
La prison de haute sécurité de New Bilibid, à côté de Manille, est le plus grand centre de détention des Philippines. Il compte aujourd'hui près de 20 000 prisonniers, alors que ces bâtiments, à l'origine, étaient prévus pour deux fois moins de monde. Cela représente plus d'un quart de la population carcérale des Philippines, qui est de 70 000 personnes, à peine un peu plus qu'en France. Mais malgré cette surpopulation, l'ambiance est étrangement décontractée à la New Bilibid. Une fois passées les deux lourdes portes de l'entrée et les contrôles des gardes, on se retrouve dans de vraies rues animées. Des vendeurs de DVD piratés s'approchent et font la concurrence à de petits artisans qui fabriquent des arbres à partir de bouteilles en plastique bleu. Tous ces gens sont des prisonniers, mais ils sont libres de circuler de 6h du matin à 6h du soir dans les 10 hectares de l'enceinte et de faire du commerce. C'est en quelque sorte un village normal des Philippines, sauf qu'on ne peut pas en sortir. Les prisonniers qui vivent à la New Bilibid ont été condamnés pour des crimes graves, meurtres, viols ou attaques à main armée. Warren Zimparan.
Pour se retrouver ici dans la section de haute sécurité, vous devez être condamné à plus de 20 ans de prison. Il y a aussi ceux dont le procès est en appel et les multirécidivistes.
Pour veiller sur ces condamnés, la prison compte une centaine de gardes en poste en même temps. Bien trop peu pour garder 20 000 détenus, mais c'est un fait, les moyens manquent cruellement à la New Bilibid, même pour la sécurité. Du coup, cette sécurité a été largement déléguée aux prisonniers eux-mêmes et à 12 chefs de gang élus qu'on appelle les maires. À l'intérieur de la prison, dans les bâtiments ou les petites rues, il est très rare de voir un seul garde. C'est d'ailleurs à l'insu de ces gardes que nous avons pu réaliser ce reportage. Mario Reyes, condamné à 40 ans pour vol aggravé, est un commandant dans l'un de ces gangs appelé Bantay Cebu. Celui-ci regroupe plus de 400 prisonniers qui s'entassent la plupart dans un bâtiment surpeuplé, prévu à l'origine pour accueillir 100 personnes à peine. Dans l'allée de ce bâtiment, Mario réveille des prisonniers qui dorment à même le sol dans une chaleur étouffante. Des chambres minuscules ont été aménagées en divisant des petites salles avec des planches de bois. Chaque espace est optimisé. La nuit, les gens doivent littéralement s'entasser pour dormir. Mais dans ce début d'après-midi, un karaoké bat son plein dans le hall d'entrée. Marion Reyes veille.
C'est notre responsabilité de veiller à ce que les prisonniers soient bien contrôlés et qu'ils n'intentent rien contre leurs codétenus. La sécurité est encore et toujours notre principale responsabilité, à nous les gangs.
Il y a eu des révoltes dernièrement, des combats ?
Non, depuis 2 ou 3 ans, c'est assez calme. Si l'un de nos membres agit mal, nous intervenons en premier et nous l'envoyons en isolement pour 1 mois ou 2 mois ou même 1 an si c'est grave. Parfois, ils reçoivent des punitions physiques, nous les fouettons au niveau des fesses, juste pour qu'ils sentent à quel point cela est grave. Si un prisonnier fait quelque chose d'illégal, comme utiliser de la drogue, nous devons le remettre au bureau de correction, qui est celui qui le punit.
Qu'arrive-t-il à un chef de gang s'il y a un combat ou un mort ?
Nous endossons la responsabilité. Nous sommes punis avec celui qui est accusé par le bureau. C'est pour cela que nous faisons attention à ce que la situation ne dégénère pas.
Un autre chef de gang avoue cependant qu'un prisonnier trop récalcitrant peut être définitivement châtié. On le retrouvera par exemple mort un matin et tout le monde dira qu'il s'est brisé le cou en tombant de son lit. Un rapport de la Commission des droits de l'homme indique qu'il y a eu 56 morts dans la prison en 2008, dont 3 tués par balle, 1 par des coups de couteau et 1 par pendaison. Ce qui est en fait assez peu, avoue la Commission, pour une population de 20 000 détenus. Pour Jay Saplala, psychologue pour une association religieuse au sein de la prison, ce système d'autogestion né du fait de manque de moyens a eu l'avantage de responsabiliser les détenus.
Beaucoup de prisonniers ont été incarcérés à cause de leur mauvaise gestion de la force. Donc, dans le fond, c'est plutôt une bonne chose que le bureau de correction leur offre ses responsabilités, car ils doivent ainsi apprendre ce que l'on peut faire ou pas et contrôler cette force. Nous les aidons avec des cours de psychologie et je pense qu'ainsi, la réadaptation sera plus facile.
Ce système d'autogestion de la sécurité est appliqué dans les 7 prisons de haute sécurité des Philippines, mais c'est dans celle de la New Bilibid, à côté de Manille, que la direction l'a étendue au maximum. De fait, elle a même octroyé aux prisonniers certains privilèges impressionnants, comme celui de pouvoir faire venir sa femme et ses enfants une fois par semaine. Des femmes qui peuvent même dormir sur place pendant toute la nuit. Une vraie révolution dans cet univers carcéral masculin et surpeuplé. On est samedi, le jour de cette visite hebdomadaire. La femme et l'un des enfants de Pedro Mendoza sont venus l'aider à travailler dans son épicerie où l'on trouve de tout, même des fruits et des légumes et du poisson frais à porter le matin même. Joy, la fille de 12 ans, vient tous les samedis derrière le stand.
Je viens une fois par semaine, le reste du temps je dois étudier.
Tu ne trouves pas cela étrange de venir vendre au milieu d'une prison ?
Non, pas vraiment.
C'est ma femme qui fait le marché tous les jours et qui apporte les biens à la porte de la prison quand elle ne peut pas entrer. Il faut bien cela car je vends du poisson, il faut que ce soit très frais. Je gagne 500 pesos par jour, soit 7 euros. Dehors, je gagnerai beaucoup plus car ici, le bureau nous prend 10% de nos revenus. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Heureusement, mes co-détenus viennent tous les jours m'acheter des produits. Tout l'argent que je gagne, je le donne à ma famille, car mes enfants sont encore en train d'étudier.
Ces visites hebdomadaires ont été instaurées en 2001. Au début, une fois par mois, puis depuis peu de temps, c'est donc une fois par semaine. Pour le directeur adjoint de la prison, le colonel Bartolomé Bustamante, ces avantages restent cependant conditionnels.
Tant que ces personnes se comportent bien, nous pouvons leur offrir ces privilèges. En fait, ce sont vraiment des privilèges, pas des droits. Si un prisonnier viole nos règles, nous retirons ses permissions de visite d'amis et de compagnes pour un certain temps. Mais il est vrai que cela se passe bien pour l'instant. Les révoltes étaient incessantes avant, quand ils n'avaient pas ces visites conjugales.
Autoriser le sexe dans une prison pour calmer la tension, cela semble être une technique primaire, mais elle est en fait rarement appliquée. Pourtant, à la New Bilibid, cela semble être un remède efficace aux problèmes de violence. Pour Émile Leclerc, un Hollandais enfermé ici depuis une dizaine d'années, c'est même cela qui a fait cesser les affrontements dans la prison.
Quand je suis arrivé ici, il y avait des guerres de gangs à coups d'armes à feu, mais tout cela est fini depuis 2001 ou 2002. Vous avez encore de petits incidents comme des coups de couteau qui partent lors des paris aux cartes, mais c'est tout. Le vrai changement, ça a été les femmes, car si vous empêchez un homme d'avoir une vie sexuelle, vous créez de l'irritation et de la violence. Or ici, vous pouvez baiser sans vous arrêter, si vous me permettez l'expression. Et c'est donc un endroit pacifique, car c'est ce que les hommes cherchent. Si seulement l'Europe pouvait apprendre cela de cet endroit.
Mais tout n'est pas aussi rose dans la prison de haute sécurité de New Bilibid. Car le manque de moyens accordés à la prison par le ministère de la Justice a une conséquence directe, l'injustice et les inégalités, justement. Exactement comme à l'extérieur de ces murs, ceux qui ont de l'argent s'en sortent bien, les autres souffrent physiquement et dangereusement. Deux chiffres parlent d'eux-mêmes. Le budget repas est de moins d'un euro par jour et par prisonnier. Celui des médicaments est de 3 pesos par prisonnier, soit 4 centimes d'euros. Renan Tebasas, directeur du service de visite des prisons à la Commission des droits de l'homme.
Nous avons constaté que la plupart des prisonniers ont des symptômes relevant du beriberi à cause d'un manque en vitamine B. Cela provoque des inflammations des nerfs, par exemple. Leur alimentation est également trop salée et beaucoup d'entre eux souffrent ainsi d'hypertension et de dérèglement des reins. Par exemple, pour leur petit déjeuner, ils mangent du touyo qui est un plat de poisson séché. C'est très salé et si vous mangez cela tous les jours, vous aurez sans doute des problèmes d'hypertension et des problèmes aux reins. Mais c'est un plat qui ne coûte pas cher. Un autre problème grave est le budget pour les médicaments. Imaginez, 3 pesos par prisonnier, qu'est-ce que vous allez acheter avec cela ? Du paracétamol et c'est tout. Si un détenu tombe malade ou a une infection, la direction ne pourra même pas acheter des antibiotiques et l'état du prisonnier va empirer. C'est pour cela que nous appelons le gouvernement à augmenter le budget de médicaments dans les prisons.
Kerry O'Brien connaît bien cette situation de carence et cet Américain de 60 ans en souffre au quotidien. Atteint d'une double hernie avant son emprisonnement en 2005, il a besoin d'être opéré, quelque chose d'impossible ici. Depuis qu'il est arrivé, il a en plus attrapé une pneumonie très difficile à soigner avec les moyens du bord.
J'ai attrapé cette pneumonie, ils ont commencé à me donner de mauvais médicaments qui ne m'ont pas soigné du tout. En général, la pharmacie est vide, il n'y a pas de médicaments. Donc il faut connaître quelqu'un à qui donner une ordonnance, qui peut sortir et vous les rapporter, ce qui demande déjà d'avoir de l'argent et des connaissances. Si vous n'avez pas tout cela, vous allez avoir de sérieux problèmes ici. Par exemple, il n'y a jamais d'insuline à disposition. Il y a des personnes qui ont de graves problèmes de diabète. Moi, je pense qu'ils ne survivront pas ici.
Cet Américain vit dans un coin obscur d'à peine 3 mètres carrés, aménagé par des planches sous un escalier. De l'autre côté de la prison et de sa hiérarchie sociale, le Hollandais Émile Leclerc, lui, vit dans une maison d'environ 40 mètres carrés. Celle-ci avait été construite par un député condamné à vie pour un double viol sur mineur, mais qui, grâce à ses relations, est parti au bout de 11 ans seulement. Émile a donc pu aménager un intérieur confortable avec Internet et télécablé où défilent CNN et la BBC. À la différence de l'Américain, ce Hollandais de 73 ans n'a pas vraiment envie de quitter la prison de New Bilibid.
Moi, heureusement, je reçois ma retraite d'Europe. Mais si vous n'avez pas d'argent ici, vous avez vraiment une mauvaise vie.
Mais comme partout aux Philippines, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une prison, c'est souvent l'entraide qui fait survivre les gens, cet esprit de solidarité qu'on appelle ici le bayanihan. Et c'est ainsi que les associations de la New Bilibid arrivent régulièrement à faire venir des artistes, par exemple, pour un concert en plein milieu de cette prison de haute sécurité. C'était Grand Reportage dans la prison de haute sécurité de New Bilibid. À Manille, Sébastien Farcy. Réalisation, Marc Minatel.
Et on retrouve à présent Sébastien Farcy en ligne de Manille. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour, bonsoir.
Vous nous dites à un moment que vous avez réalisé ce reportage à l'insu des gardiens. Vous avez pu, on l'a entendu, dialoguer avec certains détenus. Comment ça s'est passé pour vous dans la prison et comment vous y êtes entré ?
Écoutez, comme vous pouvez le comprendre au travers du reportage, le règlement intérieur, si on peut dire, est très flexible dans cette prison. C'est pas pour autant qu'on peut rentrer sans sauf-conduit, mais mon sauf-conduit à moi, si on peut dire, a été un styliste de haute couture qui avait organisé quelques semaines auparavant un défilé de mode à l'intérieur de la prison. En fait, un défilé de vêtements qui avait été réalisé par les détenus eux-mêmes. Alors, tout cela paraît un petit peu surréaliste, mais en effet, comme ce styliste connaissait bien la direction et il avait été très apprécié par son travail, et ben c'est grâce à lui que j'ai pu rentrer sans même demander à la direction. J'avais réussi à dissimuler un petit micro et un enregistreur de mini-disques au fond du sac. Et en fait, une fois à l'intérieur, ben c'est bien ce que je décris. Je ne me souviens pas avoir croisé de garde dans les 10 hectares de l'enceinte. Dès qu'on s'approchait par contre des murs, là oui, mes accompagnateurs étaient tendus. Il y avait quand même des vigiles qui regardaient ou qui faisaient semblant, je ne sais pas. Et dans l'ensemble, j'ai pu aller pratiquement partout, guidé par les membres de l'association Lamb of God, qui gère toutes les actions sociales dans la prison.
Alors l'image sur laquelle vous ouvrez ce grand reportage, celle de détenus qui jouent au tennis, c'est peut-être un peu trompeur. Sébastien, vous le dites hein, d'ailleurs, New Bilibid, c'est pas seulement ça.
Non, en effet, bon, l'image du tennis est un petit peu excessive, mais je pense qu'elle montre bien jusqu'où on peut aller dans cette prison. En fait, ce club de tennis a été construit par l'ancien député Romeo Ralossos, que j'évoque dans ce reportage, qui a construit sa propre maison à l'ombre des arbres à côté du club, là où habite le Hollandais maintenant. Ce député, en fait, continue à diriger toutes les actions sociales depuis l'extérieur de la prison, à travers cette association de Lamb of God, qu'il a lui-même montée. Et ce que cela signifie, ce que cela montre bien pour moi, c'est que ce petit univers de 20 000 prisonniers n'est rien d'autre qu'une réplique du monde extérieur. On n'est pas ici dans un système tout répressif où on condamne des gens à 30 ans, 40 ans dans des cellules extrêmement petites. Non, ici en fait on est dans un système de débrouille à la Philippine et ceux qui ont de l'argent ont la liberté de bien s'en sortir. Les autres sont simplement laissés de côté.
Sébastien, on l'a compris, New Bilibid est une exception. Quelle est la situation dans les autres prisons des Philippines ?
Alors, il y a sept prisons, comme je disais, il y a sept prisons de haute sécurité qui comptent la moitié des 70 000 détenus du pays. Dans la plupart d'entre elles, c'est un système assez libertaire comme celui-ci, bien que avec moins de privilèges. L'une d'entre elles, d'ailleurs, qui est située à Cebu dans le sud, est devenue célèbre l'année dernière quand des centaines de prisonniers ont monté cette réplique de la chorégraphie de Thriller de Michael Jackson et qui avait fait tout un succès sur Internet. Mais toutes les prisons ne sont pas aussi amusantes, si on veut. Loin de là, d'ailleurs, les pires sont en fait les prisons municipales, celles où on loge les gens pour des peines moindres. La Commission philippine des droits de l'homme ne parle plus de surpopulation dans ces cas-là, mais de conditions de vie sous-humaines. Les détenus sont tellement serrés qu'ils peuvent à peine bouger pour aller uriner, par exemple. La plus grande prison municipale de Manille, qui est située dans le nord, elle était prévue pour 500 personnes, attendez bien, elle en compte aujourd'hui plus de 3000. Les cas de torture y sont aussi réguliers, m'a-t-on dit, de la part de policiers qui cherchent à obtenir plus rapidement des informations.
Merci beaucoup Sébastien Farcy, correspondant d'RFI à Manille. Votre grand reportage à la prison de haute sécurité de New Bilibid est à retrouver, bien sûr, à tout instant sur internet www.rfi.fr. Demain, retour en France pour grand reportage. Nous évoquerons le Pôle emploi, la nouvelle structure créée pour accueillir les chômeurs littéralement submergés en ces temps de crise. Nous serons avec Patricia Lecomte.